Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le purgatoire, mythe ou réalité, très présent dans les prédications et les dévotions jusqu'au XIXe siècle, le sujet est depuis peu évoqué et reste mystérieux. Est-il un lieu intermédiaire entre la terre et le ciel, où la souffrance est de mise ? Le purgatoire est-il plutôt un temps pendant lequel l'âme du défunt attend de rencontrer son Dieu ? Pourquoi le curé d'Ars l'appelait-il l'infirmerie du bon Dieu ? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans Vivante Église. Le purgatoire existe-t-il vraiment ? À quoi sert-il ? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes avec Dom Paul Denisot, recteur de Notre-Dame de Montlignon, sanctuaire dédié à la prière pour les défunts. Bonjour Père.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur avec Bénédicte de Saint-Germain de l'ouvrage « Le purgatoire dans tous ses états » aux éditions des Béatitudes. Et je vous remercie de faire ce détour par les studios de Radio Présence puisque vous allez donner une conférence à Saint-Cernin, la basilique Saint-Cernin, sur ce sujet. Dom Paul Denisot, vous introduisez votre propos en qualifiant le purgatoire de « bonne nouvelle ». Alors, ce n'est pas forcément l'image qu'on s'en fait. Pourquoi vous parlez de « bonne nouvelle » ?
Parce que je pense qu'il faut redécouvrir cette réalité qu'est le purgatoire. Elle a été effectivement un peu abîmée par la dévotion un peu douloureuse du XIXe siècle, aussi sans doute par des influences qui ne sont pas forcément chrétiennes, le romantisme, le spiritisme ou de Victor Hugo. Donc on en a eu des représentations très sombres, avec une espèce de complaisance sur la souffrance du purgatoire. Et c'est vrai qu'on peut en parler, mais le purgatoire, c'est d'abord une bonne nouvelle, parce qu'il s'agit d'une école de rattrapage, une épreuve de rattrapage pour le ciel, que c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu, et que, loin d'être sombre, je pense, en méditant sur ce mystère du purgatoire, je pense qu'il est au contraire lumineux et qu'il permet justement à la lumière de traverser complètement l'âme et de la guérir et de la purifier de tout ce qui vient l'empêcher d'être elle-même.
Donc Paul Denisot, vous nous dites que c'est une bonne nouvelle et on va quand même garder cette question de la souffrance au purgatoire. Hein, pour un petit peu plus tard, je voudrais qu'on refasse un petit peu le parcours de l'âme. Au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe ?
Alors au moment de la mort, le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que l'âme est jugée. Voilà, que tous nous comparaîtrons, comme dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, nous comparaîtrons à nu devant le tribunal de Dieu, voilà, devant le Christ. Et que nous vivrons ce jugement particulier, un jugement individuel de notre âme. Et qu'à l'issue de ce jugement, eh bien, l'âme qu'elle reçoit sa rétribution immédiate, soit par la damnation, qui est le refus de l'amour, l'enfer, soit par le ciel, qui est l'entrée dans la vie éternelle, dans la béatitude, dans la vision de Dieu, dans la joie, et dans un temps de purification, mais ce temps de purification qui permet d'accéder justement au ciel, qui est l'antichambre du ciel.
Oui, c'est ça, la salle d'attente.
La salle d'attente.
Oui. Dans cette triple possibilité...
En fait, il y a une double possibilité.
Ciel,
Il n'y a qu'une double possibilité, c'est soit le refus de l'amour, soit l'acceptation de l'amour. Mmh. Mais dans l'acceptation de l'amour, ce qui est beau, c'est qu'il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire que pour l'âme qui est pleinement ouverte au moment de sa mort à l'amour de Dieu, comme c'est sans doute le cas pour le bon larron, comme c'est sans doute le cas dans la tradition pour les martyrs, pour lesquels l'Église ne prie pas, parce qu'elle a cette conviction profonde qu'en donnant sa vie, on entre directement dans la gloire, on est directement avec le Seigneur. Eh bien, donc ça, c'est vraiment c'est l'objectif, hein, c'est le but. Mais il faut reconnaître aussi que l'âme peut avoir connu des compromissions, des séquelles du péché, des choses qui n'ont pas été complètement purifiées, des pardons qui n'ont pas été donnés, des soifs de pouvoir qui n'ont pas été complètement abandonnées, des soifs de posséder, des addictions, en fait. Et donc, ce temps de purification qui est le purgatoire, c'est justement ce temps qui nous remet d'aplomb, qui nous guérit pour nous permettre d'être pleinement nous-mêmes, parce que rien d'impur ne rentre dans le royaume de Dieu.
Oui. Dans ce jugement particulier, est-ce que c'est l'âme qui dit « je ne suis pas digne d'aller au ciel » ou est-ce que c'est Dieu qui dit « bon, attends un peu et purifie-toi avant de me rencontrer » ?
Alors, Sainte Catherine de Gênes, qui est le docteur de l'Église, enfin, un docteur es purgatoire, qui a écrit un très beau traité, enfin, qui nous a transmis un très beau traité sur le purgatoire, eh bien, Sainte Catherine de Gênes dit que ce sont les âmes elles-mêmes qui se précipitent en purgatoire en ne se sentant pas encore dignes, pas encore prêtes pour entrer dans la gloire de Dieu. Donc, c'est en aucun cas une espèce de punition ou une frustration. L'âme sait très bien qu'elle n'est pas prête. Et donc c'est un temps que le Seigneur prend pour justement la remettre d'aplomb, la guérir, lui faire abandonner les liens qui la maintiennent encore enchaînée ou en esclavage.
Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'une purification.
Voilà. Et on en a conscience hein, déjà nous-mêmes dans nos vies qu'on a toujours besoin d'être purifié. C'est pas seulement chrétien, hein, mais nous, on le voit dans le Perche. On a pas mal de personnes, les bobos parisiens qui viennent embrasser des arbres, manger du quinoa. Mais enfin, aujourd'hui, tout le monde recherche, vous voyez, cette espèce de... On le retrouve dans toutes les cultures, en fait, et même dans notre société postmoderne. On veut être purifié dans l'alimentation, le jeûne, purifié des écrans. Et en fait, nous aussi, on vit notre vie comme un chemin de purification. C'est un chemin chrétien. Mais nous, nous croyons que la purification, elle est possible aussi après la mort. Mmh. Et que ce purgatoire nous permet vraiment d'ouvrir le cœur à la miséricorde et à la vérité de Dieu.
Mmh. Et parce qu'en fait, l'ultime rencontre de Dieu au ciel, c'est la confrontation à un Dieu tellement, enfin, à un Dieu saint, tellement parfait qu'il faut cette purification, elle est nécessaire, indispensable pour être en face à face.
Oui, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, vaste programme. Eh bien, il faut avoir été traversé par la sainteté de Dieu, qui est une traversée qui illumine, qui vivifie, qui console, qui réchauffe, mais qui aussi purifie et élimine les scories des péchés qui ne peuvent pas, elles, rentrer dans la gloire et dans la lumière.
Et si on a eu une vie chrétienne rythmée par la prière, par la confession, pourquoi on aurait besoin de ce temps de purgatoire puisqu'on a été pardonné de son péché ?
Alors, d'abord, on n'en a pas besoin. D'abord, le purgatoire, c'est une épreuve de rattrapage. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui vient du diocèse de C, où est Montlignon, elle vient d'Alençon, rappelle que l'objectif, c'est le ciel. Le purgatoire, c'est pour ceux qui auront méprisé ou qui n'auront pas cru à la puissance de l'amour miséricordieux du Seigneur. Donc elle dit, elle nous rappelle que l'objectif c'est le ciel, il ne faut pas viser le purgatoire. Mais le purgatoire c'est effectivement pour ceux qui auront... le Seigneur pardonne nos péchés toujours, si nous venons lui demander pardon, il nous pardonnera toujours. Mais nous avons besoin d'être établis dans notre dignité. Et je trouve qu'il y a une image très belle dans l'évangile, c'est l'image du père avec le fils prodigue. Le fils prodigue revient, il revient non pas parce qu'il a blessé son père, il revient juste parce qu'il a faim. Mmh. Et il dit juste à son père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père le serre dans ses bras, le prend dans ses bras et lui pardonne. Mais... il lui dit, mettez-lui des sandales aux pieds, mettez-lui un anneau au doigt, voilà. Revêtez-le des vêtements de noces, remettez-le dans sa dignité. Et donc le purgatoire, c'est ça aussi, c'est un temps de guérison, de purification pour regagner cette dignité que le Seigneur veut pour nous.
Mmh. Pourquoi dit-on que les âmes ne peuvent rien pour elles au purgatoire ?
Parce qu'elles ne peuvent plus poser d'actes elles ne peuvent plus poser d'actes bons. Elles sont dans une espèce d'attente. Elles peuvent rien pour elles. Effectivement, elles ne peuvent plus poser des actes méritoires pour elles parce que le temps du mérite est terminé et c'est après la mort. Et elles attendent. Elles attendent nos prières et la prière de l'Église.
Donc elles sont dans une forme de passivité ?
Oui, elles apprennent. Je pense qu'elles apprennent quelque chose de l'ordre de la dépendance. Exactement. Ce qui n'est pas facile. Hein. On l'apprend ici-bas. On a des purgatoires ici-bas. La maladie ou la vieillesse, le grand âge, c'est un vrai purgatoire, je pense. Hein, en accompagnant des personnes, on se rend compte qu'il y a des phases où, paf, on lâche quelque chose qu'on pensait encore maîtriser, ses facultés cognitives ou ses facultés motrices. On lâche des choses progressivement pour apprendre à dépendre. Et je pense que le purgatoire, c'est une école de dépendance. Non plus dépendre pour ne plus dépendre de nos propres forces, parce qu'elles nous quittent, mais de dépendre du Seigneur seul.
Mmh. Et donc, ça veut dire qu'elles ont un lien avec le Seigneur. Elles ne sont pas pour autant délaissées du Seigneur.
Pas du tout. Elles ne sont pas du tout délaissées parce qu'elles sont Sainte Catherine de Gênes et puis les grands saints, même comme Saint Thomas d'Aquin, les théologiens disent qu'elles sont dans une joie et qu'elles ressentent une joie semblable à nul autre ici-bas. Donc une très grande joie. La joie d'être sauvé, la joie d'être dans la grâce de Dieu, la joie d'être prise en charge par la prière des saints. La Vierge Marie les prend en prière. Dans sa prière, s'ils sont abandonnés, c'est par nous. C'est nous qui oublions de... Quand on parle des âmes délaissées du purgatoire, c'est parce que nous, les vivants, nous délaissons...
Nous ne prions pas pour elles.
Nous ne prions pas pour les défunts. Mais non, ils sont dans l'amour de Dieu et ils ne sont pas abandonnés.
Mmh. Est-ce que ces âmes du purgatoire, elles vivent dans une contrition de ce qu'elles ont fait sur la terre ?
Je pense qu'elles apprennent une forme de contrition. Mais la vraie contrition, pas la contrition de celui qui regrette, qui a du remords et qui porte une culpabilité. Non, la contrition, je pense même qu'on parle plutôt de componction, c'est-à-dire devant l'amour du Seigneur, pleurer ses péchés, mais dans le sens où l'amour du Seigneur est plus grand que mes péchés. Vous voyez, ce sont les vraies larmes des saints. Les saints sont des pécheurs comme nous, mais ils ont été touchés et ils ont fondé leur espérance dans cet amour qui est plus grand que toutes nos misères. Et je pense que c'est ce que découvrent les âmes du purgatoire. Donc vous voyez, une contrition qui est une componction qui est de pleurer ses péchés, mais les pleurer de larmes de joie en se disant « mais le Seigneur m'aime encore plus ». Que le mal que j'ai pu commettre.
Et puis ces âmes, elles découvrent à quel point l'amour de Dieu est immense.
Et elles ne le font que le découvrir. C'est-à-dire que plus elles s'approchent, plus le temps de la fin de leur purification approche, plus leur désir de Dieu grandit, plus elles découvrent à quel point Dieu les aime et à quel point elles sont aimées de Dieu, et plus elles ont soif de cet amour, ce qui provoque leur souffrance en fait.
Voilà, et alors justement c'est là où je voulais en venir, Don Paul de Nizot, est-ce que les âmes souffrent au purgatoire?
Oui, elle souffre. Alors, c'est ce que disait Sainte Catherine de Gênes. Elle disait qu'il n'y avait pas de joie, de contentement plus grand qu'en purgatoire, à part évidemment la vision béatifique, la béatitude du ciel. Et elle dit qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que la souffrance des âmes du purgatoire. Ce n'est pas du tout une souffrance punitive, une justice vindicative de Dieu, une vengeance. Tu as commis tel péché, je me venge et tu payes. Un père, Jésus nous le dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre père vous donnera l'Esprit Saint. Donc si Dieu est un père et un père aimant, il évidemment qu'il ne prend pas plaisir à se venger et il ne se venge pas. En revanche, la souffrance, je pense qu'elle est de deux types. La principale souffrance du purgatoire, c'est la souffrance du désir, de se savoir aimer, de savoir qu'on va goûter enfin à la béatitude, à la plénitude de l'amour dans la communion, dans la vision béatifique avec le Seigneur, et de ne pas la goûter encore. Un peu comme lorsque deux fiancés savent qu'ils vont se retrouver, ça fait 6 mois qu'ils ne se sont pas vus, et puis plus le temps des retrouvailles approche, plus le désir grandit, plus la joie grandit, mais plus la souffrance grandit également, parce qu'on n'en peut plus, quoi. Et donc, vous voyez, c'est une souffrance qui ouvre le cœur, c'est la souffrance du désir. C'est le désir qui purifie notre amour. Et puis la deuxième souffrance, c'est finalement d'apprendre à se passer de ce qui faisait nos sécurités ici-bas.
Nos béquilles.
Vous voyez, par exemple, je pense qu'il n'y a pas de téléphone portable au ciel. Et ça, on a peut-être besoin, enfin moi j'aurais besoin d'une vraie cure de désintoxication, et le purgatoire sera peut-être un peu long pour justement ne plus me...
Mais ça, vous pouvez le faire sur la Terre.
Oui, ce qui est génial, c'est que le purgatoire, on peut déjà le choisir sur Terre. Oui. Voilà. Sauf que au ciel, on le subit. Alors qu'ici-bas, notre force aussi, c'est de choisir les renoncements et les purifications par lesquelles on veut passer dès maintenant.
Oui, mais ça exerce la volonté dans ces cas-là.
Oui, et ça nous ouvre à l'amour. Mais oui, tout à fait.
Oui. Dans cette souffrance, on entend bien, Don Paul de Nizot, que en fait, il y a une souffrance qui est mêlée de joie. C'est ça.
Une souffrance mêlée de joie. Et peut-être que c'est quelque chose du même ordre. Alors, encore une fois, c'est vraiment analogique et je ne veux pas dire d'erreur, mais de bêtises. Mais il y a quelque chose de la souffrance mêlée de joie dans le sacrifice du Christ sur la croix. Une joie profonde du Christ de se donner. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Et pourtant qu'elle n'est pas mon angoisse avant que cela n'arrive. Et donc, vous voyez, souffrance et joie, c'est sans doute ce que le Christ a ressenti sur la croix. Une souffrance profonde de l'abandon, de la solitude, du mal qui lui est fait, de toute la lâcheté humaine et de tous les péchés des hommes qu'il porte à travers tous les temps. Et en même temps, la joie profonde de se donner à son Père pour l'humanité, et une joie qui est encore plus profonde et plus puissante que cette souffrance.
Est-ce que ce temps de purgatoire, d'ailleurs c'est ça la question que je voulais vous poser, est-ce qu'on dit que c'est un temps, est-ce qu'on dit que c'est un lieu, ou est-ce qu'on dit que c'est un état?
Alors le lieu, sans doute, il y a quelque chose du lieu, mais je vous avoue que j'ai encore du mal à percevoir ce que ça pourrait être. En tout cas, lieu par rapport à l'humanité ressuscitée du Christ. Un temps, bien sûr, un temps qui n'est pas notre temps, un temps qui n'est pas le temps terrestre. Ça, Benoît XVI le rappelle dans Spe Salvi, un temps psychologique. Et un temps est donc un état de transformation. Je pense que, encore plus fondamentalement, le purgatoire, c'est une relation. L'enfer, c'est une non-relation. C'est le refus de la communion et de la relation. Donc je m'enferme sur moi-même et je refuse toute communion avec Dieu et avec mon prochain. Voilà, c'est un refus de relation. Le ciel, c'est la relation complètement ouverte, dans une contemplation du Seigneur et dans l'amour du prochain, définitif et accompli.
Et puis une communion
Une communion, voilà. Mais relation. Le ciel est relation. Et le purgatoire, c'est une relation, mais une relation encore qui est à la fois dans une attente, dans un désir, et une relation aussi qui doit être purifiée de ce qui l'empêche d'être pleinement ouverte, pleinement ajustée. Et donc je pense que l'eschatologie, en tout cas, vous voyez, les fins dernières, l'enfer, le paradis, le ciel, on peut les expliquer aussi, beaucoup de théologiens modernes les ont expliqués à partir de ce concept de relation. Je trouve que c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Quand je suis avec le Christ, je goûte déjà à la vie éternelle. Quand Jésus dit au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi dans mon royaume, avec moi, c'est ça qui compte. Et le purgatoire, c'est être avec le Christ, mais en même temps, il y a des choses qui nous empêchent d'être pleinement à lui. Et donc, nous avons besoin de cette purification.
Mmh. Est-ce que les âmes qui sont au purgatoire éprouvent une forme de culpabilité ?
Je pense qu'elles sont lavées justement de cette culpabilité.
Elles sont lavées. Mmh.
Parce que la culpabilité n'est pas de Dieu, et elles sont libérées au contraire de ces culpabilités, parce que dans l'expiation qu'elles vivent, on n'aime pas beaucoup ce mot expiation, mais je pense qu'il y a quelque chose de très juste, d'une justice qui est rétablie par le mal que j'ai commis, mais pas de manière extérieure, pas en me mettant en prison, mais en moi, en étant transformé, en étant guéri. Vous voyez, guérison, miséricorde et justice, les trois se manifestent en moi. Et cette justice qui est accomplie me guérit de toute culpabilité. C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y a plus de culpabilité. Donc cette culpabilité, elle est purifiée, elle est lavée par ce temps.
Je vous propose de marquer une pause. Nous allons écouter Don Paul Denisot, Les saints et les saintes de Dieu interprétés par la communauté d'Emmanuel. Puis vous nous direz juste après justement ce qu'on peut faire pour les âmes, puisque vous nous avez dit qu'elles ne pouvaient rien pour elles-mêmes.
Isabelle Duché.
Le purgatoire, mythe ou réalité? Après avoir vu ce qu'était le purgatoire, un lieu, un temps, un état, je vous propose de nous intéresser à ce qu'en dit la Bible, puisque apparemment il n'y a rien d'écrit dans la Bible sur le purgatoire. Dites-nous, Dom Paul Donizot, vous qui êtes recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, ce qui est dit sur le purgatoire.
Alors effectivement, la question du... Ça a été un reproche d'ailleurs que Luther a adressé à l'Église. Catholique, de dire ben, y a pas de fondement du purgatoire, y a pas de fondement dans l'écriture sur le purgatoire. Effectivement, d'abord, le purgatoire vient de la pratique de la prière pour les défunts. Je pense que c'est un des premiers fondements de cette réalité, de cette vérité du purgatoire, c'est que dans toutes les cultures, on prie pour les défunts. Pas seulement nous, les catholiques, pas seulement les chrétiens, on le fait depuis l'Antiquité, mais les juifs avant nous, comme l'atteste le livre des Maccabées, qui offre justement un sacrifice pour les soldats d'Israël Judas Maccabée offre un sacrifice pour les soldats d'Israël qui sont tombés lors du combat contre les troupes de Gorgias, et on a trouvé sur eux des amulettes, donc on s'est dit que leur foi n'était pas complètement pure. Donc il a fallu offrir un sacrifice parce qu'ils croyaient, dit le livre des Maccabées, à la résurrection des morts et au pardon des péchés après la mort. Et en fait, on a aussi cette prière pour les défunts, elle est universelle. Dans toutes les cultures, on accomplit des offrandes, des sacrifices. Là, j'étais à Taïwan, on brûle des faux billets de banque qu'on envoie au ciel pour que le défunt puisse s'acheter une domesticité, une voiture, une maison. Et vous l'avez dans toutes les cultures. Donc, on a le sens qu'on peut encore faire quelque chose pour les morts. Et nous, ben, si on prie pour les défunts, comme l'attestent les prières eucharistiques de la messe, si on prie pour les défunts, pourquoi prie-t-on pour eux? C'est-à-dire, s'ils sont au ciel, est-ce qu'ils ont besoin de notre prière? Non. La Vierge Marie n'a pas besoin qu'on prie pour elle, c'est elle au contraire qui intercède pour nous. Les damnés ne veulent pas de notre prière parce que l'enfer ne veut pas de l'amour. L'enfer, c'est, dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est comme une porte fermée à clé de l'intérieur. On ne veut surtout pas laisser passer la lumière et donc la prière, on n'en veut pas. Donc si on prie pour les défunts, ça veut dire que l'Église a cette intuition qu'on peut encore les rejoindre dans un temps de purification après la mort. Et donc voilà, ça c'est un premier fondement, la prière pour les morts, la prière pour les défunts. Le deuxième ensuite, l'Église va trouver des fondements dans l'Écriture, un fondement notamment chez saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens. Saint Paul parle d'un feu purificateur, il rappelle que la pierre de fondation, et personne ne peut en poser d'autre, c'est Jésus-Christ. On peut construire sur cette pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin ou du chaume, mais que l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière, parce que le jour du jugement le manifestera, et cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Donc, si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice, mais lui sera sauvé comme à travers le feu, dit l'Épître aux Corinthiens. Et donc, ça veut dire que saint Paul affirme que... pour être sauvé, il faudra traverser un feu et accepter que des choses de notre vie soient brûlées. Et donc voilà, c'est dans ce feu de saint Paul qu'on trouve le fondement biblique du purgatoire. Mais vous savez, le fondement biblique de l'Immaculée Conception, il est dans le plein de grâce. Donc voilà, l'Église va trouver dans ce fondement biblique la réalité. Un fondement scripturaire pour le purgatoire. Vous avez d'autres allusions quand même dans l'évangile qui sont assez intéressantes quand Jésus dit « Celui qui aura péché contre l'Esprit Saint, si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans l'autre. » Donc ça voudrait dire qu'il y a un siècle dans lequel on peut encore être pardonné de certains péchés. Ou lorsque Jésus dit « Mets-toi d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, et qu'on te jette en prison, sans quoi tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » Donc il y a quelque chose d'une espèce de rétribution possible, d'un rattrapage après la mort, il me semble, dans ces témoignages de l'Écriture. Vous avez aussi ensuite les pères de l'Église qui vont tout de suite inviter à la prière pour les défunts. Par exemple, Tertullien parle de la vision qu'il a eue dans la Passion de Perpétue, parle de la vision que sa sainte Perpétue a eue de son frère, mort depuis peu. Elle le voit souffrant et assoiffé. Elle prie pour lui et elle voit ensuite qu'il est bien vêtu et heureux. Donc, Tertullien, saint Cyprien, voilà. Donc, l'Église va progressivement désenvelopper cette réalité du purgatoire jusqu'au Concile de Florence en 1439, où elle affirmera de manière dogmatique l'existence de ce temps de purification après la mort.
Puisque vous parlez de feu, dont Paul Donizot, est-ce que ça veut dire qu'il y a un feu au purgatoire?
Alors évidemment, c'est une image. Ce feu qui est le même en enfer et au ciel, c'est le feu de l'amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est notre Seigneur, notre Dieu est comme un feu dévorant. Un feu dévorant qui, en enfer, il brûle parce qu'on n'en veut pas, on le refuse et donc on ne le supporte pas. Au purgatoire, il illumine et il purifie, il guérit. Et au ciel, il transfigure. Mais c'est ce même feu d'amour qui, sous trois états de réception différents, qui se manifeste au ciel, en enfer ou au purgatoire.
Mmh. Le sanctuaire Notre-Dame de Montlignon est consacré à la prière pour les âmes du purgatoire. Le curé d'Ars affirmait en effet que les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles-mêmes, mais elles peuvent beaucoup pour leurs bienfaiteurs. Vous nous avez expliqué pourquoi elles ne pouvaient rien pour elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour, donc justement, leurs bienfaiteurs?
Alors, pour saint Thomas d'Aquin, elles pouvaient prier après. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles rentraient au ciel, elles intercèdent pour ceux qui les ont portées dans la prière. Pour sainte Faustine, par exemple, elle avait des visions de certaines de sœurs décédées il y a peu. Et dans ces visions, ses sœurs imploraient ses prières. Elle priait pour elle et une semaine après, ses sœurs lui apparaissaient en rêve en la remerciant et en lui disant « Dieu te le rendra ». Pour le saint curé d'Ars et pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on peut déjà les prier, mais les prier en priant pour elles. Et c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais peut rendre efficace leur intercession pour nous. Ça veut dire qu'en priant pour elles, en priant pour les défunts, on peut les aider. Mais en priant pour eux, non seulement on peut les aider, mais on leur permet de nous aider.
Ouais.
Et il y avait un théologien qui donnait une très belle image. Il disait, c'est un peu comme des braises. Quand on souffle sur ces braises, ouais, on leur apporte de l'énergie. Elles deviennent incandescentes,
ouais,
et elles nous réchauffent à leur tour.
D'accord.
Vous voyez, c'est une espèce de donner et recevoir.
Mm-hmm. Est-ce que le fait de prier pour les défunts, ça peut permettre à des personnes qui sont en deuil d'atténuer le remords, par exemple en se disant « je n'ai pas assez fait de choses pour lui, je n'ai pas assez prié pour lui quand il était sur la terre » ou des choses comme ça.
C'est une très bonne question, bravo, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent à Montlignon. Nous accueillons beaucoup de personnes en deuil, et ça fait partie de notre ministère d'accueillir les endeuillés. Et c'est vrai que quand on a perdu un proche, on se pose plein de questions. Il y a la culpabilité de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on n'a pas dit ou de ce qu'on a dit, des pardons qui n'ont pas été donnés, des merci qui n'ont pas été donnés. Et même, ça vient très longtemps. Hein. Moi, je me souviens que 10 ans après le décès de mon père, tout d'un coup, je me rendais compte en plein milieu de la journée, tiens, j'ai fait ça. En fait, j'ai pas été sympa avec lui là-dessus quand j'ai posé cet acte-là. Et on peut très vite tomber dans une espèce de remords,
de culpabilité aussi.
Et en fait, justement, c'est ce que dit Benoît XVI dit, mais qui n'éprouve pas le désir de faire parvenir quelque chose à nos défunts, de leur dire encore merci, de leur demander pardon et de les remercier. Et Benoît XVI dit, c'est jamais trop tard. Par notre prière, nous pouvons encore leur dire merci, leur demander pardon ou leur pardonner. Et ce pardon, ce merci dans la prière, c'est-à-dire en les confiant au Seigneur, est une étape de leur purification. Et donc vous avez tout à fait raison, je pense que ce qui peut nous guérir dans le deuil, ou ce qui peut nous aider à accepter ce temps du deuil qui est long, hein, c'est de les confier au Seigneur, de dire au Seigneur, prends-le auprès de toi. Aujourd'hui, je peux encore faire quelque chose pour lui. Et ce quelque chose, ça peut être encore pour lui dire merci ou pour lui demander pardon.
Mmh.
C'est jamais trop tard. Et ça, c'est une espérance inouïe.
Ah bah oui.
De se dire que ce n'est jamais trop tard.
Est-ce que les défunts ne comptent que sur notre prière, la prière des vivants?
Alors, heureusement qu'ils comptent aussi sur la prière de la Vierge Marie et des saints, mais pour une part, ils comptent aussi sur la nôtre. Et vous voyez, il y a des choses que le Seigneur n'accomplirait pas sans nous. C'est ça qui est fou. Quand on pense à ce paralytique qui est amené porté par ses quatre amis, si les quatre amis ne s'étaient pas bougés, si les quatre amis n'avaient pas entendu parler de Jésus, le paralytique serait sans doute resté dans sa chambre. Donc, et d'ailleurs, l'Évangile nous dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralytique,
ta
foi t'a sauvé. Non, c'est pas la foi
du
paralytique. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur réalise des choses qu'il ne réaliserait pas sans nous.
Parce qu'il ne veut pas faire sans nous.
Et parce qu'il ne veut pas faire sans nous. C'est pas parce qu'il ne peut pas faire, il peut tout faire sans nous. Mais il y a des choses qu'il ne veut pas accomplir sans nous. Et il attend notre prière, justement, notre supplication, comme la Vierge Marie à Cana. Hein, que c'est parce que Marie a dit à Cana, ils n'ont plus de vin, que Jésus a dit, bon, ok, enfin, remplissez d'eau ces jarres, et puis qu'il a accompli ce miracle. C'est Marie qui lui a demandé ce miracle.
Mmh.
Et donc, c'est pour ça qu'elle est la première dans l'Église qui intercède, et c'est pour ça qu'on prie Notre-Dame de Montlignon. C'est beau aussi parce que Marie, c'est aussi une maman. C'est à elle qu'on confie nos deuils, nos souffrances, parce qu'elle a souffert, elle sait ce que c'est que la souffrance. Elle a le cœur large parce qu'elle est Immaculée Conception, et donc on n'a pas peur d'elle. Et c'est surtout à elle qu'on peut déposer nos défunts. Parce que, vous voyez, quand on a aimé quelqu'un, on ne veut pas le lâcher, on ne veut pas le perdre, on ne veut pas l'oublier. On a tellement peur de l'oublier, alors qu'on ne l'oubliera jamais. Mmh. Et en fait, la prière, c'est justement ce qui nous permet d'ouvrir les bras et de dire... Parce que la Vierge Marie nous dit, allez, donne-moi ton enfant, donne-moi ton mari, moi, je m'en occupe. Et moi, je me rends compte, en tout cas, à Montlignon, de ces témoignages de pèlerins qui ont perdu des enfants, des situations humaines dramatiques. Et ces pèlerins qui nous disent, je veux que mon défunt, et qui ne sont pas forcément des grenouilles de bénitier, hein, et qui nous disent, je veux que mon défunt soit avec Marie. Et donc voilà, et c'est tout le sens de notre prière. C'est non seulement, je peux encore faire quelque chose pour mes défunts, mais non, et en plus, je peux les donner à quelqu'un.
Mmh, oui, et puis qui de mieux que la Vierge Marie pour...
Il n'y a pas mieux qu'une maman.
Pour s'en occuper. Quels sont les différents moyens de venir en aide aux âmes du purgatoire ?
Alors, il y en a plusieurs. Il y a la prière, bien sûr. Voilà, justement, la prière qui est... parce que le Seigneur attend notre prière. Et la prière, elle est efficace parce que c'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est de dire, moi, je ne peux pas, mais toi, tu peux. C'est de reconnaître notre impuissance et de dire, moi, je peux. Toi, tu peux. C'est comme quand, si j'ai envie d'aller à Tahiti, moi, je ne peux pas financièrement. Mais si j'appelle ma maman, est-ce que tu peux m'aider ? Vous voyez, c'est ce... Comment dire ? Enfin, je n'irai pas à Tahiti, hein, mais c'est demander à quelqu'un de plus fort et de plus grand que moi. Et donc la prière, et parmi les prières, il y en a plusieurs. Il y a la prière liturgique de l'Église, il y a le chapelet, mais la plus grande des prières, c'est la messe. Parce que la messe, c'est la prière du Christ pour nous, et nous offrons sa prière au Père. Nous offrons le sacrifice du Christ au Père, et ce sacrifice, il est pour tous les temps et pour tous les défunts. Et donc offrir une messe pour un défunt, c'est demander que ce sacrifice soit appliqué particulièrement à telle ou telle personne, même s'il est offert pour le monde entier. Il y a la messe, il y a les pèlerinages, la prière sur les tombes, ou la bénédiction des tombes de novembre. Il y a aussi de demander l'indulgence plénière en une année jubilaire.
Dans cette année sainte, oui.
Cette année sainte, mais toute l'année, on peut demander l'indulgence plénière, c'est très facile. Hein, si vous lisez les normes de l'indulgence plénière, plus on fait des choses chrétiennes, c'est-à-dire plus on se transforme, plus on essaye de vivre selon l'Évangile,
Les œuvres de miséricorde.
Les œuvres de miséricorde, on peut les offrir pour les défunts. C'est ça, hein, l'indulgence plénière, en fait, c'est très facile. Et puis, vous avez aussi l'aumône. L'aumône, c'est très puissant. Le fait de donner, d'aider, de se délester de son argent pour soutenir telle ou telle personne, on l'offre pour un vivant, mais on peut l'offrir en communion pour un défunt. Ça, c'est redoutable.
Ça, c'est puissant.
C'est puissant, oui. L'aumône, c'est puissant.
D'accord.
Et puis, vous avez tous les actes d'amour que vous posez dans votre journée, la façon dont vous acceptez les contrariétés. Seigneur, je l'offre pour tel ou tel défunt, ou pour les défunts pour qui personne ne prie. Et c'est un excellent placement, parce que c'est peut-être eux qui intercéderont pour nous au moment de notre mort et qui nous accueilleront dans les temps éternels, comme dit Jésus.
Oui.
Donc, ça vaut le coup de le faire.
C'est un bon investissement. Ouais. Comment sait-on que l'âme pour laquelle on prie, l'âme du défunt pour lequel on prie, est au ciel ? Ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit, là, il faut que j'arrête de prier pour telle personne, il faut que je prie pour plutôt une autre ?
Alors, on ne sait jamais. Parfois, il y a des manifestations, ça peut arriver, des révélations privées. Saint Jean Bosco a une révélation privée de son ami Louis Camolo qui lui a dit « Bosco, je suis sauvé ». Saint Padre Pio en a eu pas mal, mais la plupart n'ont pas de révélations privées. Il ne s'agit pas de prier avec angoisse ou tension. C'est juste de « je pense à ma grand-mère qui est décédée il y a 20 ans, Seigneur accueille-la ». Je pense à tel défunt, Seigneur, accueille-le. Je vois à la télévision ou j'entends à la radio tel ou tel drame. Je suis touché, mais au lieu de continuer à me lamenter, Seigneur, je te prie pour cette personne qui est décédée dans tel accident. Et on le confie avec confiance au Seigneur. Et puis, si ces personnes sont au ciel, le Seigneur sait très bien faire bénéficier de ma prière à d'autres. Voilà.
Oui, elle va rejaillir forcément sur...
Et puis ma prière, ce n'est pas seulement une prière qui aide à purifier, mais c'est aussi quelque chose qui continue à faire grandir l'amour avec ceux que j'ai aimés. Parce que c'est ce que dit... ça, c'est une phrase qui est très forte dans Lumen Gentium, le Concile Vatican II, Lumen Gentium 49. L'union de ceux qui se sont endormis dans la paix du Christ avec ceux qui sont encore en chemin ne connaît pas d'intermittence avec la mort. Au contraire, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. Ça, c'est une conviction de l'Église, c'est que je peux toujours faire des cadeaux à mes défunts. Et en priant pour eux, s'ils sont au ciel, eh bien, je continue de faire grandir l'amour. Et sans pour cela être tourné vers le passé.
Oui, c'est ça. Oui. On n'est pas obligé d'être, enfermé.
Ah non, surtout pas.
Dans une prière pour un défunt en particulier, mais au contraire, voilà.
Et justement, vous avez tout à fait raison. Ma prière pour les défunts que j'aime doit s'ouvrir forcément sur toute l'humanité, sur tous les défunts.
Comment l'existence du purgatoire et le fait qu'on peut quelque chose pour les âmes du purgatoire, comment ça peut nous mettre en chemin, nous, dans notre vie de vivant, avant la mort?
Je pense plusieurs choses. D'abord, de se rappeler que je vais mourir. Et justement, de demander aussi cette conversion du cœur, cette purification, cette ouverture, cette désintoxication dès aujourd'hui. Quels sont les liens qui m'empêchent d'aimer pleinement? Parce que je pense que le purgatoire, c'est ça aussi. C'est de nous rappeler à notre responsabilité d'aimer dès aujourd'hui et de nous convertir aujourd'hui. Le purgatoire, c'est aussi nous rappeler cette solidarité profonde, je trouve, qui est passionnante dans la communion des saints, mais avec l'humanité tout entière. Elle m'ouvre, cette réalité du purgatoire, en priant pour les pauvres âmes du purgatoire, ça ouvre mon cœur, en fait, à toutes les difficultés que traversent nos contemporains. Et souvent, vous voyez, on a tous des combats, des difficultés. Je pleure parce que mes petits-enfants ne sont pas baptisés et que je souffre pour ça. Moi, j'ai un combat contre l'alcool ou contre la drogue ou la pornographie. Je n'en sors pas. On mène ces combats-là. Et ces combats-là, c'est déjà des temps de purification, des épreuves de purification. Pourquoi je ne prierais pas pour tous ceux qui traversent les mêmes épreuves? Vous voyez, justement, parce que moi, je vis cette épreuve-là, que j'emmène avec moi toute l'humanité. Et je pense que le purgatoire me fait prendre conscience aussi de cette appartenance à cette communion des saints.
À un corps.
À un corps.
Et l'Église. Oui, ouais, bien sûr.
Profond.
Oui, c'est profond. On va quand même parler du sanctuaire Notre-Dame de Montlégion, puisque vous en êtes le recteur et vous en venez. Vous nous disiez, Don Paul Donizot, que vous accueillez beaucoup de familles en deuil. Qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement? Comment vous aidez ces personnes?
Alors, il y a plusieurs manières de les aider. D'abord, Montlégion, c'est une fraternité internationale qui prie pour les défunts. Et donc, les groupes de prière accueillent dans les paroisses ou prient avec les endeuillés. À Montlégion, il y a des pèlerinages aussi, des pèlerinages du ciel. Les personnes viennent en pèlerinage, soit au mois de novembre plus spécifiquement, mais pendant toute l'année, je viens exprès pour confier tel défunt, pour l'inscrire à la fraternité de Montlégion. C'est-à-dire que je peux le recommander à Montlégion en l'inscrivant à la fraternité. Et la messe, il y a une messe qui est célébrée tous les jours au sanctuaire pour toutes les personnes recommandées à Montlégion depuis 1884. Et il y a d'autres messes dans le monde qui sont célébrées pour toutes ces personnes recommandées. Et donc, on a les registres avec tous les noms des personnes recommandées depuis le début de la fraternité.
Ça fait combien de personnes?
Oula, ça fait des millions et des millions.
Des millions.
Ouais, des millions. Et donc, on a, tous les matins à 8h, une messe est célébrée pour toutes les personnes recommandées à Montlégion. On peut faire ça. On peut aussi venir à une halte deuil ou à une semaine consolation deuil. Là, au cours de ces haltes, c'est 2 jours pour une pause dans le deuil. Et c'est pour venir d'abord entendre parler des étapes du deuil et se dire, en fait, c'est normal que je souffre encore. Parce que quand on est en deuil, on est souvent seul, dans un monde qui ne parle pas de la mort, ou avec des amis qui vous disent, je t'ai laissé un an pour souffrir, maintenant c'est bon, tu passes à autre chose. C'est difficile de parler de son deuil. Et donc là, de se dire, en écoutant ces étapes du deuil, de se dire, en fait, c'est normal ce que je ressens. Ma colère, mon incompréhension, ou ma tristesse, ou mon abattement. Pourtant, ça fait un an et demi, je devrais... c'est maintenant que c'est le plus difficile. Donc voilà, une pause dans le deuil. Des enseignements sur l'espérance chrétienne aussi. On a besoin d'être fortifié sur l'espérance. La prière aussi, c'est l'occasion de prier pour mes défunts. Et c'est aussi l'occasion d'un temps d'écoute. Vous voyez, quand on est en deuil, on a besoin aussi de parler de celui qu'on a perdu ou de celle qu'on a perdue. Et d'en parler, de se donner un temps où il y a quelqu'un qui est là et qui m'écoute et ça me permet de parler de mon mari, de ce que je ressens, de pourquoi il me manque ou qu'est-ce que nous avons vécu. C'est tout ça un peu les haltes deuil à Montlégion.
Oui, parce que l'entourage n'ose pas forcément parler du défunt parce qu'il ne veut pas blesser la personne.
On ne sait pas comment en parler. Ouais. On ne veut pas et puis... on n'aime pas voir l'autre souffrir, donc on se dit je vais pas en parler ou tiens il faudrait passer à autre chose. Quand vous avez vécu 40 ans avec la même personne, vous passez pas à autre chose, c'est pas possible. Tout s'est effondré, quoi. Donc c'est Oui, c'est une petite pause. C'est pas, y a pas,
on, c'est pour on reprendre pas un souffle.
Ouais, exactement. Il n'y a pas un tampon à la fin pour dire c'est bon, vous allez mieux, au revoir.
Mais et votre deuil est terminé.
Non, évidemment, le deuil, c'est tellement long. Mais en revanche, c'est une petite pause dans le deuil et c'est aussi l'occasion de se dire, si vous voulez, vous revenez quand vous voulez. Parce que mon Légion, c'est une espèce de maison de famille. Les gens rentrent, partent. Enfin, c'est très intéressant. Je le vois avec les personnes qui sont attachées au sanctuaire. Ils viennent, ils reviennent avec des personnes avec qui ils étaient en halte deuil pour passer 3 jours de vacances. Pas pour parler du deuil, mais voilà. Et mon Légion, ça peut être le lieu aussi où, je le vois, ça c'est touchant aussi, quand des parents ont perdu un enfant, l'anniversaire du décès de l'enfant est tellement douloureux, on ne sait pas où aller. On ne peut pas vraiment se retrouver tous ensemble parce que ça va être...
trop lourd.
Glauque, enfin triste, lourd. Et donc, régulièrement, de plus en plus, on a des personnes qui viennent à Mont-Légion pour dire, voilà, c'est l'anniversaire du décès de notre enfant. On ne peut pas rester à la maison. Donc, on vient ici parce qu'ici, on va penser à lui, on va pleurer et on sait que c'est un lieu qui est réservé à ça.
Oui, et puis on n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul. Il y a des religieuses, il y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a des chapelains pour nous accueillir.
Oui, alors si on veut rejoindre une fraternité Notre-Dame de Mont-Légion à travers le monde pour... prier pour les défunts ou pour que nos défunts soient pris en charge par cette prière, il suffit de suivre le site www.montlegion.org et là on a toutes les informations.
On peut recommander inscrire son défunt en ligne et on reçoit un certificat qu'il est bien inscrit à la fraternité et qu'on prie pour lui à chaque messe perpétuelle et que tous les groupes de prière prient pour lui. On peut aussi rejoindre des groupes de prière. Il suffit de contacter le sanctuaire, justement, et de demander les groupes de prière, parce qu'il y a des groupes de prière dans toutes les paroisses. Il y a 1200 groupes de prière dans le monde qui prient
donc
en communion.
Donc, on peut en trouver un près de chez
on
soi.
On peut en trouver un. Alors, pas partout, mais peut-être que dans le sud, on peut en trouver, oui.
Bon, voilà. Allez, à nos auditeurs de faire des recherches. Merci beaucoup, Dom Paul Denisot. Je rappelle que vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Mont-Légion. Votre ouvrage, Le Purgatoire dans tous ses états, écrit avec Bénédicte de Saint-Germain, est disponible aux éditions des Béatitudes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.